France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, salut à deux grands loufoques. Monsieur Pierre Dac, d'abord, qui est à l'honneur dans une exposition, accompagné de rééditions de livres et de disques, et son inséparable complice Francis Blanche, aussi doué pour la chanson que pour le canular. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Jacques Pessis, grand amoureux s'il en est, du musical, par ailleurs légataire universel de Pierre Dac, et au téléphone Arlette Rébora, alias Madame Francis Blanche. On les retrouve dans un instant, juste le temps d'évoquer cette époque où déjà les dansignes de Paris avaient dû fermer leurs portes.
Depuis que les balles sont fermées, la valse est morte, je vois encore tourner, valser les galants qui me font escorte. Tous les bras qui m'ont enlacé dans un tourbillon m'emporte, je ne peux pas vous oublier. Depuis que les balles sont fermées, valse légère, trop éphémère, vos souvenirs qui me parlaient d'amour, valse troublante, tourbillonnante, je vous entends, vous m'obsédez toujours. Depuis que les balles sont fermées, depuis que la valse est morte, je vois encore tourner, valser les galants qui me font escorte. Tous les bras qui m'ont enlacé dans un tourbillon m'emporte, je ne peux pas. Depuis que les balles sont fermées, valse divine, un tronc s'incline, puis un baiser volé plein de douceur, dans une étreinte et son empreinte à jamais reste gravée dans mon cœur. Tourbillon m'emporte, je ne peux pas vous oublier. Depuis que les balles sont fermées.
Et vous aurez peut-être reconnu Damia en 1943, à l'époque, et oui, c'était le couvre-feu. Les balles étaient fermées, comme elle le chante. Les Français allaient devoir attendre encore un an. Espérons que ça ira un peu plus vite pour nous. En tout cas, j'en profite pour vous signaler la réédition aux éditions Bartilla de la très belle biographie de Damia par Francesco Rapazzini. Damia, une diva française qui était épuisée, qui vient donc de ressortir chez Bartilla.
Thank you.
Ça, c'est peut-être encore moins connu que Damia, la mazurka de la source ballet de Léo Delibes qu'on vient d'entendre sous la direction de Sir Charles Maqueras.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous le disais ce matin, donc les rois du loufoque sont à l'honneur. Ils n'avaient pas le même âge, ils n'ont pas eu la même vie, mais leurs années de compagnonnage ont marqué à tout jamais la mémoire de notre pays. Nous parlons aujourd'hui de Pierre Dac et de Francis Blanche en compagnie d'Arlette Rébora et de Jacques Plessis. Et commençons tout de suite avec cette chanson qu'ils écrivirent ensemble bien avant le retour de la mode de la barbe.
C'est Figaro qui jette un cri d'alarme. Oh là 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 là. Attention, attention, attention. Oui. Car plus avant moi n'emporte la barbe. Oh là 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 là. Se raser devient une obsession. Oui. Non. La 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 la. Triste vie. En vérité, la triste vie.
Pour les barbiers.
Qui n'ont plus rien à nous couper.
Qui n'ont plus rien à nous couper.
De toutes parts, on ne voit guère,
on ne voit guère
que des mentons,
des mentons nus,
comme des vers,
comme des vers,
des mentons nus. C'est dégoûtant,
c'est dégoûtant.
Mais où sont les,
mais où sont les
barbes lentes, barbes en brosse ou barbes à frisette, barbes en pointe, en collier, en côtelette, barbes jusqu'au nombril,
barbes jusqu'au genou,
barbes bleues, barbes rousses,
barbes marées, barbes à pou.
À présent, c'est zéro, 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 c'est zéro. Oui,
zéro. Émile Solas, Adi Carnot,
Le Père Bugeaud,
Victor,
Francène,
Hugo.
Ah mes amis, voyez la jolie ronde qu'autour de la terre on ferait des deux mains. Si toutes les barbes du monde voulaient se donner la main. Ah mes amis, voyez la jolie ronde qu'autour de la terre on ferait des deux mains. Si toutes les barbes du monde voulaient se donner la main.
Voilà les barbus qui s'avancent, mais qui s'avancent pour sauver, sauver la France, et le monde entier.
Les quatre barbus en 1956 dans Honneur aux barbus, chanson de Pierre Dac, Francis Blanche et bien sûr Rossini. Bonjour Jacques Plessis.
Bonjour Benoît.
Une chanson qui en fait correspond peut-être à l'époque où la barbe était en train de passer de mode. C'est exactement le contraire d'aujourd'hui. Hein.
Oui, et c'est aussi l'époque où Pierre Dac et Francis Blanche sur la chaîne parisienne avaient créé Malheur aux barbus.
Voilà.
Un feuilleton qui était une parodie des feuilletons du 19e siècle où Furax partait dans l'espace enlever tous les barbus et grâce à cette énergie des barbes sur la soupière volante, il allait sur une planète pour conquérir le monde. Et il y a eu 213 épisodes entre le 15 octobre 1951 et le 29 juin 1952.
Mais c'est quoi cette obsession de la barbe? Il y a encore d'autres chansons d'ailleurs qu'ils ont faites pour les quatre barbus justement.
C'est parce que ça les amusait. C'était...
Voilà, c'est un thème.
Oui, surtout qu'ils disaient poil au nez, poil aux dents, donc ça a peut-être un lien avec tout ça.
Et qu'ils étaient parfaitement glabres tous les deux.
Complètement, hein. Complètement. Voilà. Une petite moustache pour Francis Blanche.
Voilà. Merci d'être avec nous en tout cas ce matin, Jacques Plessis, pour parler de ces deux grands hommes qui vous sont chers, pour parler de vous aussi d'ailleurs. Mais commençons tout de suite, entrons dans le vif du sujet, puisqu'il est au cœur de l'actualité avec cette exposition dont on va reparler, avec ses rééditions. Pierre Dac, vous êtes son légataire universel, et j'ai lu même ce concept que je ne connaissais pas encore, vous êtes son neveu adoptif.
En fait, je l'ai connu quand j'avais 15 ans, je suis allé sonner à sa porte, il m'a reçu, et ça a été un coup de foudre, j'oserais dire réciproque. Je suis devenu son secrétaire général particulier et son neveu adoptif, puisque j'avais un père. Et effectivement, j'ai eu la chance et le privilège de devenir son légataire universel. Il disait, il vaut mieux passer hérité à la poste que passer à la postérité. J'ai tout fait pour démontrer le contraire.
Voilà. Donc, vous étiez allé sonner chez lui parce que vous aviez déjà donc une admiration folle pour tout ce qu'il faisait.
Ah, depuis là, toujours. J'écoutais Furac, j'écoutais Pierre Dac. Et un jour, je réussis à me procurer l'adresse de Pierre Dac, 38 avenue de Villiers. Oui. Du haut de mes 15 ans, je vais voir, 36, 40, il n'y a pas de 38. Et j'ai mené ma première enquête journalistique, je l'ai trouvé au 24, il m'a reçu et on ne s'est plus quitté.
En tout cas, on peut dire que vous veillez bien depuis de nombreuses années maintenant sur cet héritage, parce que vous êtes occupé régulièrement de spectacles, de rééditions, de livres. Hein. Vous y passez une partie de votre vie pourtant déjà très très bien remplie. Hein.
Oui, parce que ça représente une forme d'humour absurde qui touche encore les jeunes d'aujourd'hui. Oui. Sans Pierre Dac, il n'y aurait pas eu Coluche, Des Proches, Les Nuls, Les Guignols de l'Info et beaucoup d'autres. Et aussi parce que ça correspond à une langue française qui a besoin d'être défendue aujourd'hui. Et Pierre Dac en est l'exemple type. C'est à travers ses sketchs qu'il écrivait pendant des mois. Et puis il y a l'homme, il y a le résistant, oui. Il y a l'humaniste. Et que cet homme, qui était un homme timide finalement, mérite d'être évoqué régulièrement parce que c'est comme ça que d'autres suivront son chemin.
Alors l'actualité, j'ai envie de dire malheureusement, mais vous n'êtes pas le seul, d'une semaine après l'autre à ce micro, à venir parler d'événements qui sont plus ou moins annulés ou reportés. L'actualité, c'est cette grande exposition d'abord au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris. Donc exposition qui malheureusement est pour l'instant reportée, prolongée. Eh ben,
elle est fermée, mais tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer, comme disait Pierre Dac. On va la reprendre dès que possible. Et je vous le dis, on va sans doute la prolonger parce que c'était plein tous les jours. Une nouvelle génération découvrait Pierre Dac à travers cette exposition. Et je pense qu'elle va durer le plus longtemps possible.
Comment est-ce qu'on peut présenter un humoriste comme Pierre Dac dans une exposition?
D'abord, avec les souvenirs que j'ai pu retrouver, car il jetait tout. Et j'ai pu retrouver beaucoup de choses. Et puis, c'est un parcours du siècle. Parce que Pierre Dac, il a été un des premiers chansonniers à inventer le loufoque à Montmartre. Ensuite, il a été le pionnier des émissions de radio sur Radio Cité et le Poste Parisien.
On va y revenir.
Et ensuite, il a été un résistant. Donc, c'est un parcours complet d'un homme dans le siècle. Et dans cette exposition, il y a beaucoup de sketchs. Et entendre des gens rire aux éclats dans une exposition, c'est pas si fréquent.
Voilà, et en même temps, paraissent un certain nombre de livres, comme ce livre de Pierre Dac, Un Français libre à Londres en guerre, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et puis également, un choix du meilleur de Pierre Dac en 3 CD, qui est sorti chez EPM. Et également chez Canetti, tout un spectacle de sketch de Pierre Dac et Francis Blanche. Enfin, le menu est vaste. Mais je propose qu'on revienne encore un petit peu sur vous et sur votre passion du musical, Jacques Pessis, avec une chanson qui, je pense, vous parlera.
France dimanche, sous les branches de l'allée des marronniers, France dimanche, tu te penches sur la joie du quartier. Quel est ce charmant cortège de filles et de garçons? Quel est ce joli manège de regards polissons? Quelle est cette ville en fête? C'est celle de mes souvenirs, de mes jeunes amourettes, de mes premiers désirs. France dimanche, sous les branches de l'allée des marronniers, France dimanche, tu te penches sur mon cœur tout entier. La sortie de la grand-messe dans la rue de l'Argenterie a tout l'air d'une kermesse devant les pâtisseries. Allons, cousine Germaine, choisir le gâteau des rois. La foule qui nous entraîne, joyeuse nous y conduira. Nous y verrons les deux filles du colonel du Barada. Elles sont vraiment très gentilles, lui est un peu gaga. France dimanche, de province, en dépit de mon air moqueur, il fallait que tu devinsses la chanson de mon cœur. À Paris, on se promène, avenue des Champs-Élysées, qu'ils sont loin, cousine Germaine, nos petits marronniers. Pourtant c'est le même dimanche, pourtant c'est la même joie, pourtant sous les mêmes branches, l'odeur des fleurs d'autrefois m'invite à la même fête, et de Joinville à nos jambes, les valses dans les guinguettes sont musique d'antan. France dimanche, sous les branches, ta jeunesse refleurie. France dimanche, quelle revanche au cœur du vieux Paris. La 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 la. France dimanche, quelle revanche au cœur du vieux Paris.
Je vais pas dire, Jacques Pessis, que cette chanson vous rappelle votre temps d'enfance, parce qu'elle a quand même été enregistrée un peu avant que vous ne veniez au monde. Mais voilà, c'est Charles Trenet qui vous est si cher à votre cœur et qui a été peut-être un des déclencheurs de votre amour pour le music-hall.
Oui, parce que j'ai entendu cette chanson, j'ai trouvé formidable. D'abord, elle correspondait à une époque de la Douce France que nous avons été les privilégiés, puisque nous l'avons vécu. Oui. Et ensuite, je me suis dit, mais il y a quelque chose dans cette musique, dans ces paroles, dans ce ton. Et quelques années plus tard, j'ai réussi à faire partie des proches de Charles Trenet, à devenir un ami avec qui on déjeunait, il mangeait une fois par jour, c'est-à-dire de 12h à minuit, et il racontait le siècle. Et c'est l'homme qui m'a appris la philosophie du bonheur.
C'est le titre d'ailleurs du livre que vous lui avez consacré.
Voilà, et j'en prépare un autre d'ailleurs avec des anecdotes inédites. Ouais. Mais surtout, c'est l'homme qui m'a dit, la vie est un rêve, de temps en temps traversé par un cauchemar, ouais. On digère le cauchemar, le rêve recommence. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui plus que jamais.
Mais à quel moment, au fond, est-ce que vous avez décidé de consacrer votre vie à la mémoire du music-hall? On connaît les émissions nombreuses, les Lumières du music-hall, les Refrains de la mémoire, aujourd'hui les Clés d'une vie sur Sud Radio, les livres que vous avez faits, les spectacles. Mais vous nous dites que vous êtes allé chez Pierre Dac, par exemple, à l'âge de 15 ans, vous avez rencontré Trenet. Mais comment est-ce que vous avez décidé d'en faire votre vie et votre métier?
Parce qu'à force de faire des livres, on m'a un jour demandé de faire une émission de télévision, les Lumières du music-hall, et que c'est parti comme ça, tout naturellement. Oui. Et que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de fabuleux qu'il fallait transmettre absolument. Parce que la chanson est un art mineur, dit-on, c'est faux, c'est un art majeur.
Mais l'université ne s'en occupe pas, voilà. Les grandes institutions ne s'en occupent guère, bien entendu.
Et aujourd'hui, ben, il faut défendre ce patrimoine qui est le patrimoine français. Quand on sait que Lucienne Boyer a descendu la 5e avenue en 1932 avec Parlez-moi d'amour, quand on sait que Juliette Gréco était une star au Japon, parlons même pas de Piaf, de Montand ou d'Aznavour, il faut défendre notre patrimoine.
Et vous croyez que c'est quelque chose qu'on peut entendre encore aujourd'hui dans cette époque qui est tellement éloignée, qui s'éloigne à toute vitesse de cette douce France que vous avez encore connue d'une certaine façon par votre génération?
Trenet disait, comment peut-on être directeur et artistique? C'est ce qui se passe aujourd'hui et j'espère que ça changera.
Alors en tout cas, Jacques Pessis, merci d'être là, notamment évidemment pour évoquer Pierre Dac. On parlera tout à l'heure de Francis Blanche également avec Arlette Rébora. Mais vous disiez, il jetait tout.
Il déjetait tout en disant « Après moi, ça intéressera personne ouais. ». Il écrivait sans arrêt. On a retrouvé quelques manuscrits parce qu'il les donnait à beaucoup de gens. Mais il écrivait des nuits entières, des sketchs, des feuilletons, des chansons, dont certaines sont totalement inédites encore aujourd'hui.
Ah oui. Alors, en tout cas, il a commencé, vous le disiez, sa carrière avant même la radio comme chansonnier, on peut dire. C'est son premier métier, d'une certaine façon.
Mais oui, il a débuté. Bon, il fait la Première Guerre mondiale, il est blessé à deux reprises.
C'est ça.
Il revient, il ne sait pas quoi faire. Et il va dans un cabaret de Montmartre qui n'existe plus, qui était le cabaret ancêtre des chansonniers, la boîte à Furzy.
La boîte à Furzy, bien sûr.
Et là, il se dit, tiens, c'est un beau métier. Il commence à écrire des poèmes. Et un soir, il va à La Vache enragée, qui était place Constantin Pécœur, juste à côté, d'ailleurs, il y a une rue Pierre Dac aujourd'hui. Il voit le directeur Roger Tosini qui l'engage et qui lui dit « Mais tu t'appelles André Isaac, c'est pas un nom de scène. Il faut que tu prennes un autre nom, tu es un chansonnier d'actualité, tiens, Dac. » Et le nom de Pierre Dac est venu comme ça. Et il a révolutionné le monde des chansonniers parce qu'au lieu d'arriver avec un petit papier d'actualité, il a créé ses premières pensées.
Voilà. Et alors, on va écouter tout de suite une archive que j'ai trouvée particulièrement amusante, parce que là, c'est Pierre Dac qui chante, il l'a chanté beaucoup à ses débuts, oui. Bien qu'il n'ait jamais eu, il faut le dire, une voix de chanteur, beaucoup moins que Francis Blanche.
Hein. Il disait « je chante faux sauf la tyrolienne
». Voilà, « je chante faux sauf la tyrolienne ». Mais alors, il a, à ses tout débuts, discographiques en tout cas, un partenaire qui s'appelle Trémolo.
Oui, Trémolo était le pianiste qui accompagnait les chansonniers. Il était sur la scène de La Vache enragée avec un petit bonnet rouge. Et Trémolo a fait une chanson très célèbre. Il a composé la musique de « La plus batte des Java ».
Ah voilà, le même Trémolo qu'on entend tout de suite en dialogue avec son ami et partenaire de scène Pierre Dac.
En vain, j'interroge furieux ce théâtre où de pianiste je tiens lieu. Oui, je dois répéter une nouvelle chanson avec Pierre Dac. Ah, toujours en retard ces chansonniers, mais le voici, prenons un air de rien, soyons aimables. Ah, te voilà poète décadent et en bas âge.
Salut Trémolo, ça va. Occupe-toi de ta mangeoire, de ta mangeoire à âne.
La mangeoire à âne?
Eh oui, quoi, ta boîte à son, ton piano.
Ah, ça ne fait rien, tu es bougrement en retard.
Pas ma faute, mon vieux. Je me suis arrêté chez un parent à Tristan Werner, un soldeur.
Un soldeur?
Oui, un soldeur, qui par surcroît est un fervent de Wagner.
Quoi?
Oui, il s'appelle Tristan et il solde.
Il est bon, celui-là.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette sonnerie?
Pas de gymnastique. Je suis pressé. Je vais à 5 heures au concert Colonne entendre le prélude à l'après-midi d'un fauve.
Mon vieux, il n'y a pas de concert. Le chef d'orchestre est enroué.
Alors, ce sera le prélude à l'après-midi d'un faune.
Ah, il est bon aussi, celui-là. Mais suffit, mon vieux. Voilà mes paroles. Tu as fait la musique?
Oui.
Eh bien, alors allons-y. Répétons.
Quel est le titre?
Mon cœur est un feu de Bengale.
Polka, piston.
Soutiens les basses. L'amour est un papillon rose qui butine un petit peu partout. C'est vraiment une douce chose qui fait frissonner le tour du cou. Aussi sans plus faire de pause, aimons-nous la nuit et le jour. Amis, chantons, chantons toujours ce poétique refrain d'amour. Je suis toujours joyeux, car mon cœur est un feu. Mais chose peu banale, un vrai feu de Bengale. Entre nous, ça vaut mieux que de se lever les yeux avec un presse pur et de se passer les trous de nez à la gomme à claquer. Enfreint au cœur, comme on voudra. Allez, vas-y, hop. Je suis toujours joyeux, car mon cœur est un feu. Des choses de feu banales, un vrai feu de Bengale. Entre nous, ça vaut mieux que de se laver les yeux avec un presse pur et de se passer les trous de nez à la gomme à claquer.
Mais mon vieux Dax, je te félicite, tes paroles sont très bien.
La musique était patente pour danser, mon vieux Trémolo. Ça sera le succès du 14 juillet.
Alors, je l'appellerai la polka du saucisson tricolore.
J'ai écrit ma première chanson alors que je passais des vacances en qualité de caporal d'infanterie à Fleury-sous-Douaumont. C'est là où j'ai écrit ma première chanson.
Dans un certain climat.
Qui m'a rapporté 60 jours de tôle, mais c'est pas fait parce que j'ai eu le bras ouvert brisé le lendemain.
Pierre Dac, on vous connaît bien, vous avez un nom qui claque. Vous êtes né où?
À Chalon-sur-Marne.
Et je crois que vous avez été marqué
un 15 août.
Pierre Dac, Dac n'est pas votre nom.
Non.
Vous êtes juif, est-ce que vous avez été marqué par ça?
Très. Oh, je suis marqué. C'est-à-dire que je porte en moi incontestablement plus de 5000 ans de, comment dirais-je, d'hébraïsme, si j'ose dire. Mais oui, je me suis introspecté, parce qu'on m'avait posé la question sur l'humour juif. Eh bien oui, je crois, j'avais répondu d'ailleurs assez évasivement, l'humour pour moi est une chose universelle. Mais je porte ça en moi parce que quand on me demande le sens de ma forme d'humour, je dis moi, je fais de la démonstration par l'absurde. Et je pense que l'humour permet... Tout au moins, mon humour, c'est de faire des choses très graves, très sérieusement, sans tellement se prendre au sérieux. Et je porte certainement en moi, car ça a été une self-defense pour le peuple juif, de se moquer un peu de lui-même et de plaisanter, qui a permis de traverser combien d'épreuves. Je n'ai pas besoin de vous les rappeler, vous les connaissez aussi bien que moi.
Pierre Dac, donc avec Jacques Chancel, bien sûr, on l'a reconnu. Et je me demandais, est-ce que je pourrais trouver quelque part, Jacques Pessis, une interview où Pierre Dac parle sérieusement de lui? Ben voilà un passage, par exemple, où il évoque des choses assez personnelles, sérieuses et même un peu graves.
Oui, il était à la fois très grave et il y avait toujours une touche humoristique.
Oui.
Comme il est né à Chalon-sur-Marne, il a écrit après sa naissance et quelques années après au maire de Chalon en disant « Étant donné mes origines juives, je ne comprends pas que ma ville natale n'ait pas été rebaptisée Chalon-sur-Marne.
» Voilà, par exemple. En tout cas, c'est intéressant, d'autant plus que, justement, cette exposition se déroule au musée d'histoire du judaïsme, de l'entendre parler aussi de l'importance qu'avait pour lui cet héritage familial.
Bien sûr, il a écrit beaucoup d'articles dans Le Droit de Vivre et il a participé à une pièce, L'Instruction, en 1966, où il était le président du tribunal, des minutes d'un procès qui racontait comment les Juifs avaient été gazés à Auschwitz. Et quand on lui avait proposé ce rôle, qui était très sérieux, il avait dit « c'est mon devoir de le jouer pour que les générations futures ne connaissent pas ça ».
Alors Pierre Dac, vous venez de lui consacrer donc un coffret en 3 CD qui évoque vraiment divers aspects de sa carrière. Et si on remonte un peu le temps après cette période chansonnier avec Trémolo, vous nous l'avez déjà signalé tout à l'heure, il y a cette période où il invente, on peut dire, la radio loufoque avec d'ailleurs le titre d'une émission.
Oui, qui était le Club des Loufoques, la Société des Loufoques, la SDL, la parodie de la SDL, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU.
Oui.
Il avait commencé à Radio Cité, qui était alors dirigée par Jacques Canetti, et il avait commencé avec une émission qui était l'Académie des Travailleurs du Chapeau, qui qui était un jeu. Et ça a eu tellement de succès qu'il est ensuite passé au Poste Parisien, le rival de Radio Cité. Et il a créé ses émissions et la course au trésor. Car on a totalement oublié que la course au trésor, c'est Pierre Dac. Ça consistait à ramener un maximum d'objets totalement délirants, une lentille farcie, un poisson rouge dans un bocal de vin blanc, en un minimum de temps au studio des Champs-Élysées. Et c'était extraordinaire, car les gens se défoulaient. C'était avant la guerre.
Un poisson rouge dans un bocal de vin blanc, j'aime bien l'idée. Enfin, pour le poisson rouge, c'est peut-être moyen, mais... En tout cas, c'était voilà, la première carrière radiophonique, donc avec Canetti comme initiateur de Pierre Dac, avant la guerre, qui va déjà le rendre assez célèbre.
Ah mais la course au trésor est l'émission la plus écoutée. Le dimanche matin, quand il est dans un théâtre parisien, qui est le théâtre Michel, les gens sont debout pour chanter l'hymne de la SDL. Ils sont trois, hein. Il y a Lionel Cazot, Fernand Rosena et Pierre Dac qui écrivent ensemble les sketchs. Et Fernand Rosena prend une dizaine de voix. Et Fernand Rosena est resté dans les mémoires parce que dans Zorro, il est la voix du sergent Garcia
en
France.
Évidemment, oui.
Et c'est un véritable succès, à tel point qu'il y a une nuit des loufoques au Moulin de la Galette à l'époque, chaque année, qui fait complet. Les gens ont besoin de ça. Et c'est à la suite de ça qu'est né l'Os à Moelle, l'organe officiel des loufoques, le 13 mai 1938.
Voilà. Et donc là, on est juste à la veille de la guerre. Et la guerre va éclater. Et Pierre Dac, qui cherche à quitter la France, ne va pas réussir à partir tout de suite. Hein. Il retrace ses aventures dans ce livre que vous avez également fait rééditer. Pierre Dac, un Français libre à Londres en guerre. C'est passionnant parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour, avec plein de jeux de mots à la Pierre Dac. Mais en même temps, il nous raconte vraiment le récit de son arrivée à Londres, de ses fameuses émissions pendant la Résistance. Et donc, après plusieurs tentatives de traverser les Pyrénées.
Hein. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas le général de Gaulle, il en entend parler. Ouais, oui. Et il décide d'aller à Londres. C'est pas facile en 40, vous savez. Ouais. À Londres, en octobre 40, il y avait 7000 Français libres. Donc ouais. Personne ne pouvait l'accueillir. Il n'y avait pas de relais. Et puis, il va finalement aller à Toulouse, où sa belle-mère a un café, le Crystal Palace, qui est un relais de résistance. Alors, il va commencer par faire une tournée avec Jacques Canetti, qui se termine tragiquement, puisqu'il est condamné à Nice, parce qu'il a dit quelques mots sur les Italiens, les macaronis, sans passer par la censure. Il décide de passer directement à Londres. Et là, il passe par les Pyrénées, en plein hiver, avec un costume de tergal et des chaussures vernies.
Oh là là.
Et au sommet des Pyrénées, il dira « Si Louis XIV se laissait farci comme moi, il n'aurait jamais dit « il n'y a plus de Pyrénées ». Il arrive en Espagne, où il est bien sûr rattrapé par la garde civile. Il va passer 4 mois à la Carcel Modelo, la prison modèle de Barcelone, dans la cellule des condamnés à mort. Et quand il est libéré, il se retrouve à Serré, devant un juge, qui lui dit « Monsieur Pierre Dac, mais pourquoi avoir voulu quitter la France ?» Et Pierre Dac répond très sérieusement « En France, il y avait 2 personnes célèbres, le maréchal Pétain et moi. La France a choisi Pétain, j'ai plus rien à faire ici. » Heureusement, le juge a de l'humour, il s'en sort. Et après, eh bien, il va pendant 1 an et demi échapper aux nazis, avoir des faux passeports et il va parvenir à retourner en Espagne. Il fait encore 6 mois de prison et il est libéré le jour de son 50e anniversaire, le 15 août 1943, parce qu'il a un faux passeport au nom de Pierre Duval et que les Canadiens sont échangés contre des sacs de blé via les Espagnols.
Et donc, il arrive finalement à Alger, puis à Londres. Il le raconte dans son récit. D'ailleurs, il va se lier d'amitié avec un certain nombre de personnages, dont le fameux Étienne de Bois-Lambert, qui sera le grand maître de l'ordre de la résistance française, hein, proche du général de Gaulle. Et puis aussi, évidemment, toute l'équipe de Radio Londres dans laquelle il va entrer et dont il va devenir, on le sait, une des figures principales, avec, par exemple, un exemple de sa contribution donc au programme de l'époque, cette complainte du Nouvel An, autrement dit, complainte des nazis.
Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte des nazis. Écoutez bien, on va vous chanter le premier.
Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent. Apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit. qui met au cœur des Hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les paumis, vous les lâches et les la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Et en chœur, c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis.
Et voici donc Pierre Dac en 1943 à Radio Londres, avec les chœurs de Radio Londres, je ne sais pas qui il y a derrière lui.
C'est enregistré dans un studio à 20 minutes de Londres avec un grand orchestre qui travaille pour la BBC.
Ah oui, voilà, ce qui fait qu'il y a parfois effectivement des arrangements relativement élaborés dans toutes ces chansons de l'époque, donc qui sont fondées sur un principe qu'on trouve dans toute l'œuvre musicale, si j'ose dire, de Pierre Dac, depuis la chanson des Barbus qu'on a entendue au début jusqu'à d'autres qui vont venir, c'est le détournement en fait de chansons célèbres ou de morceaux célèbres.
Oui, Pierre Dac d'abord est un musicien classique, il a failli être violoniste, mais la guerre de 14 lui a enlevé 12 cm de bras gauche, donc sa carrière s'est terminée, et il adorait détourner les chansons. Et quand il est arrivé à Londres, il a dit, il faut que je prenne des chansons connues et que j'adapte mon style loufoque à la politique. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'humoriste de Radio Londres, avec 80 chansons, avec des articles dans les journaux. Dans le journal France en 1944, il y a un article où il titre « Alerte au spam ». Le mot « spam », c'est Pierre Dac le premier à l'avoir prononcé.
Ah oui.
Et c'était très écouté, et on sait que c'était très écouté parce qu'à l'époque, on mesurait l'écoute de Radio Londres par la consommation d'électricité en France.
Ah oui.
Et quand Pierre Dac parlait ou chantait, elle était maximale. Et à Londres, sa plus grande chronique, c'est contre Philippe Henriot, Bagatelle sur un tombeau, qu'il a attaqué. Et
ce texte, Philippe Henriot, donc, est vraiment le propagandiste de la collaboration la plus dure.
Ah mais c'est terrible. Et on demande un jour à Pierre Dac de s'en occuper, il l'attaque. Henriot lui répond, mais qu'est-ce qu'un juif qui s'appelle Isaac peut connaître à la France? Il lui répond avec ce texte, Bagatelle sur un tombeau, où il parle de la mort de son frère pendant la guerre, et ce texte est aujourd'hui enseigné dans les écoles.
Voilà, et Henriot lui-même sera tué par la résistance peu de temps après.
C'est-à-dire que Pierre Dac à la fin dit, sur votre tombe il y aura écrit, etc., et Henriot est abattu 45 jours plus tard.
Voilà. Mais alors, à la fin de la guerre, Pierre Dac, c'est un héros national, alors?
Oui, alors d'abord, il est correspondant de guerre. Il va aller au Tyrol, il va aller jusqu'au Nid d'Aigle. Il va interviewer, entre autres, Leni Riefenstahl.
Ce qui paraît un peu inattendu pour quelqu'un qui a lutté contre le nazisme pendant des années.
Mais il se moque d'elle. Elle répond à la question « Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans ?» Elle répond « J'ai été malade. » Et il se moque totalement d'elle. Mais surtout, à la fin de la guerre, il se retrouve sans travail.
C'est ça.
Car il a fait beaucoup de choses pour la France et les portes de la radio se ferment. Il dira d'ailleurs, les véritables résistants sont ceux de 1945, parce que pendant 4 ans, ils ont résisté à leur désir de faire de la résistance. Et il se retrouve sur le pavé.
C'est ça, il y a un moment de déprime qui suit ce qui devrait être sa consécration, en fait.
Les temps ont changé, le loufoque n'est plus d'actualité, il lance l'os libre et il va faire une rencontre exceptionnelle, Francis Blanche.
Bien sûr. Alors, juste un mot encore sur la fin de la guerre, parce que j'ai vu que Pierre Dac avait été associé à tous ces tribunaux de l'épuration, notamment pour le monde du musical. Évidemment, beaucoup avaient, c'était pour le moins compromis avec l'occupant. Il a été comment dans ces décisions qu'il a fallu prendre, parfois d'interdiction d'activité pour les uns ou pour les autres?
Il a été très honnête, et notamment, il a défendu Maurice Chevalier.
Ah oui.
Parce qu'il l'avait attaqué
à la radio.
À la radio. En l'accusant d'être collabo, il a eu la preuve que Chevalier n'avait été pour rien dans tout ça, qu'il avait été victime de Radio Paris, il l'a défendu. Mais Pierre Dac était tellement honnête qu'il est allé au procès de Jean-Hérol Paqui, qui avait été son adversaire, et il m'a dit un jour, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que c'était insupportable, ces gens qui n'avaient rien fait et qui l'attaquaient. Il ne supportait pas, c'était son côté humaniste.
Alors, vous l'avez dit, quelques années après, donc il va faire cette rencontre qui va donner un nouvel élan, on peut dire, à sa carrière, avec un personnage qui nous est également très cher et dont nous allons parler dans un instant avec Arlette Rébora. Mais écoutons d'abord cette petite musique qui va sûrement lui rappeler quelque chose.
Les boîtes à musique sont des mécaniques un peu fantastiques, magiques et mystiques, tantôt poétiques, tantôt sarcastiques, avec un rien d'ingénu. Elles ont des musiques caractéristiques, des airs ironiques, aristocratiques, qui vous communiquent les mois romans. Parfum des ans révolus. À danser marquise, à marquis danser, la gavotte exquise du temps passé. D'abord la danse, puis la romance, et l'insouciance, la défaillance. Voici que s'ouvrent les bras de faïence sur des dentelles d'Italie. Les boucles blondes, les tailles rondes qui se confondent sous les rotondes. On se retrouve dans un autre monde parmi les brumes de l'oubli. Rubans et cravates, bottons écarlates, charmants diplomates, bretteurs et pirates, dames délicates, beauté que l'on flatte dans les bosquets de Marie. Mais ces acrobates, ces aristocrates n'ont pas de mots plates, de cœur ni de rate, car les automates ne sont que des boîtes, des roues, des fils, des poulies.
Quelle mécanique, il faut remonter la boîte à musique, va s'arrêter.
Les boîtes à musique sont des mécaniques un peu fantastiques, magiques et mystiques. Mais les automates ne sont que des boîtes, des roues, des fils, des...
C'était donc les frères Jacques dans l'opérette La Belle Arabelle. Bonjour Arlette Rébora.
Bonjour, bonjour monsieur Duterte.
Je suis très
ému d'entendre votre voix. Ça me fait plaisir parce que ça me rappelle que nous nous sommes déjà vus il y a un certain temps. Et puis tout ça, ça recommence. Je suis très heureuse.
Voilà, ouais. Et alors j'imagine que cette chanson qu'on vient d'entendre vous rappelle quelques souvenirs, n'est-ce pas?
Bah écoutez, alors là, cette musique, donc, on l'entend, oui, c'est Frère Jacques. Et moi, je participais, j'étais dans La Belle Arabelle.
Voilà, c'était au théâtre de la Porte Saint-Martin en 1956.
Oui, hein. Oui, j'ai été sélectionnée pour faire une des femmes de chaque frère. Et comme j'étais pas grande, eh ben, j'ai eu droit au plus petit, c'est-à-dire à Jojo, qui était le plus petit.
Voilà, et il faut dire que
des Frères Jacques.
Allez, l'époque, Arlette Rébora, vous étiez jeune danseuse, hein, et notamment au Châtelet.
Ben oui, c'est-à-dire que je venais de quitter le Châtelet, où je suis entrée à l'âge de 8 ans, et je pensais que je voulais chanter, danser, enfin tout. Et par un concours de hasard, j'ai fait la connaissance de Guy Lafarge, qui m'a auditionnée, et c'est lui qui m'a dirigée sur les auditions à passer à la Porte Saint-Martin en vue du spectacle qui allait se faire, c'est-à-dire La Belle Arabelle.
Dont il avait composé la musique.
Oui, bien sûr, et les lyriques de Francis, enfin tout ça.
Alors voilà, il faut dire que les paroles donc, étaient de Francis Blanche, les paroles de cette opérette, comme celles qu'on vient d'entendre. Et bien c'est sûr. Donc au cours de cette production que vous avez fait connaissance avec celui qui allait devenir votre compagnon et le père de vos enfants.
L'homme de ma vie et le père de mes enfants.
Racontez-nous un peu ces premières rencontres avec Francis Blanche.
Oh, écoutez, quand on voyait Francis sur scène, vous savez, il y a des gens comme ça qui se dépassent parce que d'abord, c'est un auteur. Il n'était pas à court de texte, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il était fantasque et il retombait toujours ce qu'on appelle sur ses pattes parce que c'était un comédien. Son père était comédien.
C'est vrai, Louis Blanche.
Louis Blanche, qui a été le directeur de l'Alhambra. Enfin, il était dans le Giron, si vous voulez. Et en plus de ça, il a fait des études très tôt. Il a eu sa première partie de bac à 14 ans. Bon, il avait dit au père Blanche qu'il attendait. Il a dit, écoute, tu te mets à la fenêtre. Moi, je vais venir. Si je suis reçu, je reste sur le trottoir. Si je suis pas reçu, je suis dans le caniveau. Et quand il s'est... Oui, mais alors, c'était tout Francis, déjà, vous voyez, qui se manifestait. Et quand il est arrivé, alors le père Blanche était fébrile, bien sûr. Francis l'appelait, entre parenthèses, le père Miette-Miette, parce que il était toujours non, 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 et Francis essayait toujours de faire ses petits coups en douce. Donc, quand il est arrivé pied sur le trottoir, pied dans le caniveau, ça voulait dire qu'il ne donnait pas le résultat. Et évidemment, le père Blanche était au sans coup. Mais enfin, ça, ce sont des petites pirouettes familiales, si vous voulez. Alors, mais il en était plein.
En un mot, en tout cas, Arlette Rébora, bon, on va évoquer dans un instant avec Jacques Plessis, c'est vraiment la rencontre entre Pierre Dac et Francis Blanche. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que ce jeune Francis Blanche, après la guerre, que vous allez connaître pendant de longues années, eh bien, il est un humoriste, mais il est aussi un homme de la chanson. Il a cette passion d'écrire des chansons, pas forcément des chansons comiques. C'était très important aussi dans sa vie.
Et il avait, pour être admis à la SACEM, un monsieur qui s'appelait Louis N.V., qui a fait toutes les traductions de Cole Porter, enfin, une pointure dans les traductions. Il a donc fait en sorte que Francis soit accepté à la SACEM. Et partant de là, donc, Francis n'arrêtait pas de faire des textes, Pleine ma plaine, enfin...
Débit de l'eau, débit de lait de Charles Trenet, déjà pendant la guerre.
Mais bien sûr, débit de l'eau, débit de lait, c'est quand il était avec Trenet, comme vous le savez bien justement, et qu'effectivement, il avait eu cette gymnastique de texte qui est magnifique.
Et une chanson qu'on va entendre maintenant, parce que je crois que vous l'aimez particulièrement, c'est Le Prisonnier de la Tour, musique de Gérard Calvi, chantée par Edith Piaf. Et il y avait une complicité entre Piaf et Francis Blanche.
C'est-à-dire que, si vous voulez, Piaf, elle était rieuse, Francis également, parce qu'elle aimait faire des blagues. Elle riait et elle avait aussi, il faut bien le dire, une façon un petit peu, pas de se moquer, mais de mettre les gens dans l'embarras. Comme elle s'en sortait toujours avec Maestria, et Francis était pareil. Donc ils étaient tous les deux pour le meilleur et le pire. Et alors un jour, j'étais avec Francis, nous étions dans une cohue de cocktails, vous savez, tous les gens qui se regardent et qui se parlent, enfin bon. Et Piaf hurle « Francis !» Elle fait comme ça. Alors Francis, bon, de loin, regarde Piaf, et en montrant du doigt, elle lui montre un bonhomme qui était dans un coin, et tous les deux se mettent à hurler de douleur. Pourquoi ? Parce qu'elle avait dit auparavant, elle avait dit à Francis, tu sais, moi, je peux plus dire du mal, parce qu'il paraît que quand on dit du mal, on a des douleurs. Et Francis s'écroulait avec des douleurs. Et ils étaient heureux. Non, mais c'est des trucs de...
Jacques Plessis.
Oui, je ne sais pas si vous le savez, Arlette, mais cette chanson, Le Prisonnier de la Tour, elle a une histoire. Vers midi, Francis Blanche dit à Gérard Calvi, on a rendez-vous avec Piaf à 14h30, il faut écrire une chanson. Ils ont écrit une maquette en exactement une heure, et c'est devenu Le Prisonnier de la Tour.
Le prisonnier de la tour s'est tué ce matin, grand-mère, nous n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains, grand-mère, il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Le prisonnier de la tour était mon seul ami, grand-mère, nous n'irons pas à la messe aujourd'hui. Il était mon seul amour, la raison de ma vie, grand-mère, et ma jeunesse est éteinte avec lui. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Prisonnier de la tour, chaque soir m'attendait, grand-mère, nous n'irons plus à la messe jamais. C'est un péché que l'amour et le monde est mal fait, grand-mère, on a tué mon amant que j'aimais. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Le prisonnier de la tour n'aura pas de linceul, et rien, rien qu'un trou noir où s'en couvrent les feuilles. Mais moi j'irai chaque jour pleurer sous les tilleuls, et rien, pas même le roi n'empêchera mon œil. Si le roi savait ça, Isabelle ne pourrait que pleurer avec toi, car il aimait une belle qui n'était pas pour un roi, et la belle Isabelle, c'était moi.
Vous êtes né en 21,
oui.
À Paris.
Oui.
Vous êtes le fils d'un artiste dramatique, donc
oui.
Vous êtes un enfant de la balle.
Oui, si on peut se permettre cette expression, d'accord. Mon grand-père était acteur également.
Vous êtes un bon comédien ?
Je ne sais pas. J'ai jamais eu le plaisir de me voir jouer au théâtre. Chaque fois que j'arrivais dans la salle, c'était trop tard, le rideau était baissé.
J'ai l'impression que vous avez voulu faire trop de choses.
Bah, on cherche, non ? On se demande, on se pose des questions, des voies s'ouvrent, on s'y engouffre, on fait demi-tour, on prend la première à droite, on dépiste.
La drôlerie, le comique, le gag, le canular, dans le fond, ça n'est pas un alibi pour vous ?
Non, évidemment, ça me sert d'abord à m'amuser et ensuite à essayer d'amuser les autres. L'un ne va pas sans l'autre, d'ailleurs. On ne peut amuser les autres que si on s'amuse soi-même.
Vous vouliez être comédien ?
Non, pas précisément. J'étais parti pour être auteur, d'abord parce que j'avais pas un physique tellement sensationnel. J'avais pas du tout de rôle, surtout quand j'étais jeune. Évidemment, je me rendais compte qu'en vieillissant, j'aurais plus de chances de trouver des rôles. Comme je ne pouvais pas être un jeune premier, je me suis arrangé pour être un vieux dernier.
Voilà, c'était un document de l'INA, encore radioscopie. Merci à Marie Chauveau qui nous a permis de retrouver cet entretien.
Oui.
Vous êtes avec nous, Arlette Trébora.
Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Je voudrais vous poser une question parce que ce qui m'a beaucoup frappé en comparant l'interview de Francis Blanche et celle de Pierre Dac qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que autant Pierre Dac par moment parle de lui assez sérieusement, autant Jacques Chancel avec Francis Blanche, il n'arrive jamais, si j'ose dire, à le coincer, à le faire dire des choses sérieuses.
Ah ben non, bien bien sûr. Ah ben, c'est évident. Francis avait l'art et la manière de dériver au mieux de ce qui pouvait l'intéresser lui. Et puis alors, il pleurait sur commande. il était d'une tristesse au point de vous faire croire qu'il était le plus malheureux du monde. Ah non, non. Mais c'était vraiment un phénomène extraordinaire. Bon, je parle en femme qu'il a aimé. Donc, je suis forcément avec un point de vue particulier. Mais il le faisait. Et je sais qu'avec Pierre, ils se sont, vous voyez, jamais de tutoiement.
Ah oui,
jamais.
C'est ça. Oui.
Et Pierre Dac m'a toujours dit,
Jacques Pessis.
Pierre Dac m'a toujours dit à Arlette que devant lui, Francis Blanche, vraiment, quelquefois se lamentait, pleurait, se confessait ce qu'il faisait avec personne.
Mais oui, bien sûr.
Alors, une chose importante, c'est que dans l'immédiate après-guerre, juste au moment où ils vont se rencontrer, oui. Francis Blanche a fait partie d'abord d'une compagnie très loufoque, dont je ne sais pas si elle était inspirée par Pierre Dac en partie, c'était les Branquignoles.
Mais bien sûr, mais voilà. C'est là où je l'ai vu pour la première fois quand j'étais petite fille et que j'allais au cinéma avec ma mère. Et toute la troupe. Ah oui, oui, oui. Voilà. Bien sûr. Mais moi, j'allais le dimanche avec Jean-Marie, notre premier enfant, qui était tout petit garçon, et nous étions reçus par Dinada, qui était une femme charmante. Et Pierre, quand j'arrivais, bonjour, ma petite Arlette, enfin, comme ça, c'était, et puis, il commençait. Alors, il faisait ce qu'on appelle le plan de l'émission signé Furax. Alors, Pierre était à son bureau, et Francis arpentait, et voilà, ils échafaudaient
des histoires extravagantes.
Voilà, exactement.
Alors, Jacques Pessis, vous pouvez nous éclairer un petit peu sur justement l'arrivée de ce Francis Blanche, qui est beaucoup plus jeune que Pierre Dac, qui donc fait partie des Branquignoles, qui a écrit déjà beaucoup de chansons et qui donc va devenir son partenaire.
C'est-à-dire que Francis Blanche, c'est le vrai fils spirituel de Pierre Dac. Et Pierre Dac lui doit la seconde partie de sa carrière. Un soir, Pierre Dac est chez lui, il écoute à la radio un sketch Les Mines de Rien. Et il blêmit. Car ce sketch, c'est une copie totale d'un sketch qu'il a écrit en 1937 à Radio Cité au Poste Parisien. Il va voir l'auteur en l'insultant et à la sortie du théâtre La Bruyère où il y a les Branquignoles, il insulte Francis Blanche. Les Branquignoles se cachent en disant on va ramasser les morceaux ensuite et finalement ils vont se retrouver dans un café voisin. Puis Pierre et Francis vont devenir les meilleurs amis du monde, le père et le fils, et ils vont ensemble créer des émissions de radio, le parti d'Henriette, Faites chauffer la colle, et ça va être le duo vedette des années 50, avec Signé Furax, avec Malheur au barbu, avec ces spectacles aux Trois Baudets, qui est sans issue, d'ailleurs dont Françoise Kennedy a réuni des sketchs
qui viennent de sortir en CD également.
Voilà. Et notamment, il y a Madame Arnica, qui est l'ancêtre du Sarabinana Duval, avec Francis Blanche, et on ne le dit pas assez, qui est le professeur Papa Macavro Steno Consinivisé Larguéropoulos, parce que ça faisait une liste en machine à écrire. Et c'est vraiment un duo mythique.
Lorsque sans parti pris, on établit le bilan de l'humanité, dès d'aujourd'hui, devient limpide comme un clair de lune élu, mineux comme un clair de notaire. C'est pas si tôt que les hommes seront frères, et que malheureusement, au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents. C'est triste et déprimant.
Refrain !
Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout. Par en dessous, de mémoire de grinche, jamais dans les yeux, en vitant mon regard haineux. Ah, y'en a dit, y'en a dit, de ces peines qui, sous les esprits qui, perdent le sens de la fraternité, et ainsi, c'est altruisme aussi. Hélas, maintenant, l'altruisme est foutu et c'est couru, y'a pas plus d'altruisme que de meurs orbus, y'a plus que de la haine, si bien que dans le pays, y'a tout le monde sera mais là où la chose compliquée devient tragique, c'est que la haine vient pour chacun une espèce de besoin que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin. Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine sans l'air une circonstance. Il y a de la haine de bon ton pour les haineux de salon et la grosse haine de confection. Mais de toutes les façons, y'a trop de haine, mais y'a trop de haine, et y'a trop d'haineux, ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter de tête haineux. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux est un autre haineux, celui qui est aussi par l'autre haï, de même que celui qui est haï, haïssant celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est, ce qui fait qu'en fin de compte on peut voir comme ça, l'haï ici est l'haï. Haine par-ci,
haine par-là,
ah, y en a-t-il de la haine.
La Tyrolienne haineuse, une de ses chansons co-écrites par Pierre Dac et Francis Blanche et interprétée ici donc par les deux mêmes en public. Arlette Rébora, je crois que vous avez eu l'occasion, évidemment, dans ces années-là aussi, d'aller justement aux Trois Baudets où ils se produisaient ensemble.
Oui, bien sûr, mais avant, ce que j'ai fait, j'ai participé à la Comédie Comartin et j'étais sur scène à côté de Pierre et il y avait Pauline Carton et il y avait toute l'équipe, hein, et Francis, bien
sûr. Ça s'appelait Cipollata 58, je crois.
Voilà, exactement, exactement.
Et puis alors, donc, il faut mentionner aussi, aux Trois Baudets en particulier, la présence d'un grand musicien que j'aimais beaucoup, qui est venu deux fois dans cette émission, qui était André Pop, qui était au piano avec ses deux Lascars.
Mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas connu Monsieur Henri Pop, mais quel talent, quel talent. Ah oui, c'est vrai.
Et il y avait Jacques des Pessis. Débutants. Il y avait Robert Lamoureux qui a débuté aussi dans ce spectacle.
Il y avait
Darry Cole qui a également été au piano pendant quelques temps. Et ce spectacle a été un véritable succès. C'est-à-dire qu'aux Trois Baudets, Pierre Dac et Francis Blanche ont rajouté certains soirs, beaucoup. Oui. Et Francis Blanche en a tellement rajouté, d'ailleurs, que le spectacle s'est terminé. C'est Jacques Canetti qui l'a raconté parce qu'il bombardait les spectateurs au premier rang de Flytox et que finalement, Canetti lui a demandé d'arrêter et Francis Blanche a arrêté mais le spectacle.
Alors Jacques Pessis, je voudrais vous poser une question, vous qui êtes un historiographe extrêmement précis, sur quelque chose qui est devenu culte dans la culture française, justement, que tout le monde connaît, même sans connaître Francis Blanche et Pierre, encore moins Pierre Dac, mais tout le monde connaît Il peut le dire, c'est un sketch légendaire. On va en écouter juste un petit bout, le fameux petit bout, mais c'est quoi l'histoire de ce Sar Duval?
Alors, au départ, c'est Madame Arnica créée aux Trois Baudets, d'ailleurs, qui figure dans le disque de Françoise Canetti, et c'était une parodie de Mirémy Rosca, qui était des voyants à l'époque.
Ah,
et
voilà.
Finalement, en 60, Pierre Dac ayant eu une dépression nerveuse, il reprend ce sketch en le transformant, et ils vont à Lyon. Déjeuner chez Marius, où l'eau ne sert qu'à nettoyer le trottoir. Et ils goûtent jusqu'à l'heure du spectacle tous les alcools du restaurant. Et ils arrivent sur scène complètement bourrés devant 12 000 personnes au Palais d'Hiver. Ça donnait le Sarabinera Duval, où ils en rajoutent, il peut le dire, etc., en pleurant de rire. Et le public qui se rend compte de leur état d'ébriété rit en même temps. Et c'est comme ça que c'est devenu un classique.
Votre sérénité, n'est-ce pas? Je vais vous demander de vous concentrer soigneusement. Voilà. Vous êtes concentré?
Je suis concentré.
Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. C'est parfait. Votre sérénité, concentrez-vous bien. Vous êtes en transe?
Oui, je suis en transe napolitaine.
En transe napolitaine. Ça, c'est pour dire qu'il a chaud. Votre sérénité, alors concentrez-vous bien. Dites-moi, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur?
Je suis placé sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil dur.
Oui. Dites-moi, quel est son caractère?
Impulsif, parallèle et simultané.
Oui. Quel est son avenir?
Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour.
Ah, c'est vous dire, n'est-ce pas? Il est vraiment extraordinaire. Pouvez-vous me dire, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire...
Oui. Quoi?
Qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Je peux vous dire que vous avez plus votre texte.
Si vous êtes si intelligent, dites-moi donc ce que je dois vous demander à présent. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, c'est très important, concentrez-vous. Pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de monsieur?
Oui.
Vous pouvez le dire?
Oui.
Vous pouvez le dire?
Oui.
Il peut le dire, bravo, c'est extraordinaire. Alors, c'est vraiment sensationnel.
La fille du gangster a des yeux bleus comme son père, des cheveux blonds comme sa mère qu'on voit danser avec les autres gangsters. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui lui vient de la tante Antoinette et qui désespère ses parents. Elle est honnête. Et y'a rien à faire contre ça. Les corrections ne la corrigent pas. Le sentiment, elle s'en fiche bien. Le raisonnement, ça ne sert à rien.
malgré les gifles de papa. Chez le boucher, elle ne resquille pas, et elle ne paye en faux billets que lorsqu'elle prend du faux filet. La fille du gangster a des yeux bleus comme son père, des cheveux blonds comme sa mère. Sa mère qui se revoit quand elle volait aux étalages. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui lui vient de la tante Antoinette et qui désespère ses parents. Oh, elle est honnête. L'autre jour, son père avait projeté de cambrioler le bijoutier. Il avait tout fait, tout prévu. Oui, mais la petite l'a entendu. Et ne voulant pas qu'un brave marchand, qui a toujours vécu honnêtement, soit la victime des malandrins, eh ben, elle a mis le feu au magasin. La fille du gangster, yeux bleus, son père, cheveux longs, comme sa mère. Sa misérable mère qu'on entend ronchonner. On ne fera jamais rien de cet enfant. Je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, mais c'est vraiment désespérant. Elle est honnête. Elle a trouvé hier en se promenant un sac avec 800 000 francs. Vite, elle a couru le porter au commissaire de son quartier. Comme elle était dans la maison, elle a profité de l'occasion et lui a dit ingénument tout ce qu'elle savait sur ses parents. La fille du gangster a raconté au commissaire tous les exploits de son papa et de sa mère. Sa mère enfin calmée, car depuis 8 jours, elle est coffrée. Mais elle a compris les raisons de l'honnêteté de sa fillette qui lui vaut 25 ans de prison. Elle était bête.
Et là, ça n'était pas seulement Francis Blanche, auteur de chansons, mais aussi Francis Blanche, chanteur lui-même. Arlette Rébora, il chante bien, moi je trouve. Il a une variété de registres.
Mais vous savez, Francis, il avait en tête des thèmes musicaux.
Ah oui.
C'est lui qui donnait au piano quelques notes et il démarrait sur un thème. Et ça faisait partie aussi de son agilité, de ce qu'il était dans la vie.
Et il y a cette complicité aussi, alors, dans tous ses enregistrements, quasiment avec Gérard Calvi.
Mais bien sûr, quand vous avez passé le Sarami, eh bien, c'était à Lyon, et les Lyonnais sont réputés pour être assez stricts et pas rigolos. Mais là, ça a été un envahissement de joie, mais je vous assure, parce que moi, j'étais là, j'ai participé, et j'étais dans l'avion, Europe numéro 1 avait affrété un avion, et dans cet avion, il y avait tout ce qui était drôle, Fernand Reynaud, enfin tous. Et Francis dit, si l'avion se casse la gueule, il n'y a plus de drôle d'animateur.
À la maison, avec ses enfants, il se contentait de faire des plaisanteries et des blagues
Pas du tout. Ah mais pas du tout. Les enfants, ils comprenaient pas. Hein. D'ailleurs, un jour, Jean-Marie, tout petit bébé, tombe au sol. J'allais pour le ramasser, il me dit « Non, tu le laisses. » Se lever. Non mais comme ça.
C'était un père étrange.
C'est pas qu'il prenait son rôle au sérieux, parce que bon, en fin de compte, il était, pour ses raisons de travail, il avait énormément de choses à faire, et quand il arrivait, tout le monde était au garde à vous, moi y compris. Enfin, c'est pas qu'on était au garde à vous, mais on savait qu'il était là, et on savait aussi que quand il partait, on soufflait et on recommençait notre java.
Voilà. En tout cas, ces souvenirs familiaux Francis Blanche qui se mêlent aux souvenirs du métier,
parce qu'il
y a aussi donc ce feuilleton qu'on a déjà évoqué et qui vient de reparaître en coffret en intégralité, signé Furax, de Pierre Dac et Francis Blanche, auquel vous avez été associé. On va y revenir dans un instant, mais d'abord un mot à Jacques Pessis, justement, sur cette réédition de ce feuilleton légendaire.
Oui, il y a eu 1034 épisodes entre 1956 et 1960. Sur Europe numéro 1, il y a eu Le Boudin Sacré, La Lumière qui éteint, Le Gruyère qui tue et Le Fils de Furax. Et on a réuni, grâce à la technologie d'aujourd'hui, tous ces épisodes dans un petit coffret avec 9 MP3. Et c'était tellement un succès qu'un jour, à l'Assemblée nationale, Guy Mollet, alors président du Conseil, Premier ministre donc, se lève et dit « Messieurs, je vous laisse, c'est l'heure d'écouter Furax ».
Mais quel est, si on devait résumer l'esprit, l'aventure de Furac, c'est quoi? C'est une espèce de déambulation loufoque dans l'histoire de France, dans laquelle on a rassemblé tous les personnages du musical de l'époque pour jouer les différents rôles, non?
Non, c'est, on a, d'abord, tous les comédiens de l'époque, qui sont les amis de Francis et Pierre, sont là, mais surtout, c'est une aventure rocambolesque, puisque Furac, avec Black et White, les détectives joués par Dac et Blanche, et Astis Poumant, partent contre les Babus, qui veulent dominer le monde, qui ont le boudin sacré. Après, ils vont avoir la lumière qui éteint. À chaque fois, on est dans le roman feuilleton et même sur une planète magique, bien avant Star Wars, bien avant E.T. Et la planète en 56 s'appelle Astérix. C'est-à-dire 3 ans avant la naissance du petit Gaulois.
Ah ben voilà. Donc, signé Furac, on va en écouter tout de suite un extrait. Et j'ai choisi un épisode dans lequel figure un personnage qui va vous intéresser à Arlette Trébora, puisque cet épisode s'appelle L'irrésistible Tapioca.
Oh mon Dieu!
Dites-nous, c'est qui Tapioca?
Eh ben c'est moi.
Ah ben voilà. Donc,
c'est moi. Francis... Tout simplement, j'ai été Tapioca, j'ai été Popeline aussi, mademoiselle Popeline. J'ai été une hôtesse de l'air quand Orly s'est installée au micro avec une voix réverbérée. Ceux qui partent pour la Garenne Beuzon, enfin oui. Non, mais c'était complètement...
Alors là, donc, on se trouve à un moment où Furac est avec Napoléon, enfin qui est encore Bonaparte, il prépare la prise de pouvoir de l'époque avec les directeurs, dont le fameux Barras. Et Tapioca va entrer en scène. Voici ce petit extrait.
Reste Barras.
Barras, qui est officiellement le personnage le plus important.
Le Dupont.
Comment? Dupé Barras. Mais il est malin. Et la légalité, c'est lui.
Laissez-moi faire, Napo. Je m'en charge.
Vous avez parti lié avec lui?
Pas encore, mais c'est une question d'heure.
Furac compte duper Barras. C'est du moins ce qu'il affirme à Bonaparte. Il sait pourtant bien que Claquemuf l'a précédé dans le bureau du directeur. Espère-t-il donc, Furac, acheter Barras plus cher que ne pourraient le faire les Babus? C'est un calcul présomptueux. Présomptueux et inexact. Car un élément nouveau s'est introduit dans les tractations entamées par Claquemuf. Et cet élément, c'est évidemment la jeune et belle Tapioca.
Saint-Phorose, très cher, laissez-nous, voulez-vous? Les affaires que j'ai à examiner avec le citoyen Barras ne sont pas de celles que l'on discute à trois.
Ah vraiment? Vous pensez que ma présence...
Comment, citoyenne? Le grand maître de Babylone, il n'assiste pas à notre entretien?
Mais non, c'est inutile. D'ailleurs, il a des courses à faire, n'est-ce pas, Saint-Pho?
Oui, en effet, enfin peut-être... Mais vous le croyez...
J'en suis certaine, il faut que vous vous occupiez d'Alexis.
Il dort, vous le savez bien. Claquemuf s'en décharge.
Eh bien, installez-le dans un endroit où nous pourrons le soigner à loisir, aussi longtemps que son état l'exigera.
C'est un étrange personnage dont l'insolite anonymat fait qu'on ignore tout de son âge, que d'ailleurs il ne paraît pas. Voilà pourtant bien des années qu'il déambule dans le quartier, mais le mystère de sa vie privée est demeuré toujours entier. Monsieur Maurice, en tout cas, c'est un excentrique qui donne beaucoup à jaser parmi la société classique des messieurs et dames bien élevés. Car la grave question qui se pose, c'est qu'on n'a rien à lui reprocher, donc ça doit cacher quelque chose sur le plan de la moralité. Monsieur Maurice, on ne lui connaît pas de vice secret, honteux ou dégradant, mais on s'est plaint à la police de certains incidents troublants. Ainsi, quand n'importe qui sonne à sa porte, il laisse sonner, puis répond lui-même, y a personne. Oh la drôle de mentalité, Monsieur Maurice. En vérité, Monsieur Maurice n'est qu'un homme de bonne volonté, toujours prêt à rendre service discrètement aux déshérités. Donc il est de toute évidence qu'un être aussi simplement fait, en notre époque d'indifférence, ne peut que paraître suspect. Monsieur Maurice, Monsieur Maurice.
Voilà, Pierre Dac, Jacques Pessis, lui aussi a écrit quelques chansons, beaucoup moins Francis Blanche, mais celle-ci notamment chantée par Francis Lemarque, qui s'appelle Monsieur Maurice et que vous avez fait figurer dans cette anthologie qui vient de paraître.
Oui, parce que c'est une chanson peu connue. Et d'abord, elle correspond à Monsieur Maurice, qui est un personnage d'un feuilleton, bon baiser de partout, bien oui. connu sur France oui. Inter, qui a duré 740 épisodes, et parce que finalement, ce personnage correspond à Pierre Dac en même temps. Monsieur Maurice, c'était lui sans être
lui. Oui, j'ai trouvé que ça lui ressemblait.
Oui, et c'est vrai qu'il a écrit 900 chansons, il y en a à peu près encore 700 d'inconnus.
Voilà, donc un document à redécouvrir parmi toutes les actualités qui sortent autour de ces deux personnages. J'en referai la liste dans un instant, mais dites-moi encore, vous avez eu la joie de les accompagner tous les deux dans leur dernier spectacle commun ?
Oui, tout commence au Roi Lear, un cabaret créé par Xavier Gaillard.
Ce cher Xavier qui voilà. nous écoute peut-être.
Il nous écoute souvent, bonjour. Et Xavier réunit Pierre Dac et Francis Blanche pour la première fois depuis des années. Et je me souviens très bien de cette soirée. J'arrive avec Pierre Dac et Francis Blanche, avant de lui dire bonjour, lui dit « Vous savez que je vais mourir bientôt ». Il savait qu'il allait mourir. Et c'était en 72. Et puis, ce spectacle a très bien marché. Et ils ont fait Bobino en 74. Et c'était extraordinaire parce qu'ils ont fait le fameux Sarabinat Duval qui durait 10 minutes le premier soir. Et ils ont rajouté tellement que le dernier soir, il faisait 40 minutes. Et moi, j'étais sur scène pour présenter avec eux. Et c'était du délire total. Et ils s'amusaient comme des fous en parlant de l'émir Fessal qui faisait plus d'eau crado.
Arlette Rébora, c'est vrai qu'il est mort jeune, Francis Blanche. Il faisait pas oui. du tout attention à lui, hein, à sa santé,
absolument
comme on dirait aujourd'hui.
Pas, absolument pas. Il en rajoutait même, si vous voulez.
Ah oui, parce qu'il avait du diabète, etc.
Quand il arrivait à la maison et que pour des raisons de diabète, bon, bah ça c'est la base de pas prendre de sucre. Le punch de chez Ediard, il en prenait 3 verres. Il disait Francis, et il me regardait, il en prenait un 4e. Et puis voilà, c'était comme ça. C'était une fuite en avant. On n'avait aucune possibilité de pouvoir lui faire comprendre. Il voulait pas, il s'est sabordé, pratiquement.
En tout cas, il laisse un souvenir absolument extraordinaire quand même, aussi oui. bien comme comédien que comme chanteur, que comme
sûr,
humoriste. Vous le mesurez ça aujourd'hui, j'imagine.
Oh, absolument, absolument. J'étais très proche de lui, en fin de compte, dans notre façon d'être dans la vie. Francis est absolument irremplaçable.
Irremplaçable, c'est bien le mot. Merci d'avoir été avec nous, Arlette Rébora. Jacques Pessis, Pierre Dac l'a suivi, si j'ose dire, alors qu'il était nettement plus âgé de quelques mois. Hein.
Oui, il est mort.
Oui, absolument.
Il est
absolument.
Mort 6 mois plus tard d'un manque de savoir-vivre, le 9 février 1975. et 40, plus de 40 ans après, il est toujours d'actualité.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. On va se quitter avec Francis Blanche, qui chante évidemment La Pince à linge sur France Musique, c'est la moindre des choses, toujours accompagné par son cher Gérard Calvi.
La pince à linge, 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 la pince à linge. À linge, la pince à linge fut inventée en 1887, 4 et 3 par un nommé Jérémy Victor Hobdebeck, 5 et 2 fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de Léna, marchand de beurre. La belle histoire. Déjà lorsqu'il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles, des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Hobdebeck.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubeck jusqu'à la Mecque, il n'y avait qu'un si chouette mec, Jérémy Vic Hobdebeck.
Dans les champs, près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent, pince à linge,
pince à linge.
Il faut un linge fin et trop léger, une pince pour le pincer, pour le pincer, pour le pincer, le pincer. Et dès lors dans sa tête, l'obsession qui l'inquiète, le passé, puis un jour,
Erika,
il l'avait trouvé. C'est ainsi que Jérémy Victor, Vandenbeck, dans un éclair de son génie a su doter les lavandières et blanchisseuses du monde entier d'une pince à linge qui protégera la liberté et l'humanité. Pince à linge, grâce à toi maintenant, nos chemisettes et nos chaussettes résistent au vent et nos caleçons à présent répondront présent. Donc tonner, l'horreur se déchaîner.
Nous, grâce à la pince à linge, on est protégé, paré, sauvegardé. On aura toujours de quoi espérer.
Amis, j'entends, j'entends en cœur la louange et l'honneur de notre bienfaiteur. Jérémy Victor Vandenbeck, Jérémy Victor.
Mais j'avais encore 22 becs à faire, monsieur Calvi. Enfin. Bec ! Bec !
La cinquième symphonie de Beethoven, revue par Pierre Dac et Francis Blanche, un enregistrement que vous retrouvez avec beaucoup d'autres dans le coffret Le Meilleur de Pierre Dac qui vient de sortir chez EPM. Chez EPM également, l'intégrale de Signé Furax, réédité grâce à mon invité Jacques Pessis. Et puis chez Jacques Canetti, un disque de sketch inoxydable de Pierre Dac et Francis Blanche. Tout cela paraît en même temps que Les Meilleures Pensées de Pierre Dac, Pensées éternelles, rassemblées par Jacques Pessis aux éditions du Cherche Midi. Et enfin Pierre Dac, un Français libre à Londres, en guerre chez Libretto. Tout cela évidemment à l'occasion de l'exposition Pierre Dac du côté d'ailleurs, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dont on espère qu'elle reprendra prochainement.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour nous quitter en musique, eh bien, je vous propose quelques extraits du ballet d'Isoline d'André Messager, Pavane, Mazurka, Scène de la séduction et valse, par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris sous la direction de Louis Fourestier. André Messager, le ballet d'Isoline par l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris sous la direction de Louis Fourestier. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Antoine Espel, réalisation Christine Amado. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. J'aurai la joie d'accueillir Philippe Guéluc. Et sur France Musique, maintenant, vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.